Aujourd'hui, la masterclass des frères Dardenne avec Antoine Guillot.
Bonjour et bienvenue dans cette masterclass avec Jean-Pierre et Luc Dardenne dans le cadre du festival Premier Plan d'Angers. Une heure de leçons de cinéma pour entrer dans les secrets de la fabrication d'une œuvre qui, depuis 20 ans, 8 films, ne cesse de questionner la nature humaine, les conflits moraux provoqués par la misère sociale ou les drames de la vie, et s'interroge et interroge le spectateur avec eux sur la responsabilité, la possibilité aussi pour chacun de changer ou non au contact de l'autre, des questions, des grandes questions incarné et très incarné par de formidables comédiens pour des films économes de mots, mais riches de gestes et d'actions, et tous situés dans l'environnement d'une ville ouvrière serein à côté de Liège. Avant, il y avait eu des documentaires qui exploraient notamment la mémoire ouvrière en Wallonie, et puis deux longs métrages, l'un adapté d'une pièce de théâtre, c'était Falch, l'autre d'un scénario de Jean Gruau, Je pense à vous, un film, vous l'avez beaucoup raconté, dont l'échec artistique vous fit réinventer totalement votre mode de travail, exigence, simplicité et modestie à tous les stades de fabrication du film, allait donner à partir de 1996, et je les cite tous, La Promesse, Rosetta, Le Fils, L'Enfant, Le Silence de Lorna, Le Gamin au Vélo, Deux Jours, Une Nuit et enfin La Fille Inconnue, deux palmes d'or au Festival de Cannes, ce qui est plus pratique quand on est frère pour se les partager, de nombreux autres prix et surtout une exigence jamais démentie qui a constitué autour d'eux une équipe fidèle de techniciens, de comédiens et aussi de spectateurs très assidus devant vos films. Cette masterclass ne vise pas à retracer votre parcours de film en film, mais à revenir sur votre pratique, comment on va d'une idée, une idée initiale, jusqu'à la sortie d'un film en salle, en s'appuyant particulièrement, à titre d'exemple, et puis puisque c'est assez frais dans les mémoires de tous vos spectateurs, sur le dernier film en date, La Fille Inconnue, l'histoire, rappelons-le, de Jenny, jeune médecin généraliste interprété par Adèle Haenel, qui tout au long du film mène une enquête, pour ne pas dire une quête, retrouver le nom de cette jeune fille inconnue dont on a retrouvé le corps au bord de la Meuse et dont elle se sent responsable parce que la veille, elle ne lui avait pas ouvert les portes de son cabinet. Mais avant ça, on pourrait peut-être partir du début. Jean-Pierre Dardenne, vous veniez du théâtre. Luc Dardenne, vous veniez plutôt de la philosophie. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le cinéma plutôt que le théâtre, l'écriture, une autre forme d'art pour mettre en forme ces interrogations qu'on a retrouvées de film en film chez vous?
Évidemment, ça ne peut être que les choses que nous disons a posteriori, parce que quand elles se sont déroulées, on ne savait pas ce qu'on allait faire les deux, les trois ou les quatre ans qui ont suivi. Je pense que, si je puis dire, l'élément un peu fondateur de notre travail, le fait que nous nous soyons retrouvés, mon frère et moi, derrière une caméra vidéo et un micro, c'est notre rencontre à Carmangati. Voilà. Moi, j'étais étudiant
grand,
de théâtre.
Grand homme de théâtre, voilà. Poète, écrivain.
Et qui est venu donner des cours dans l'école où j'étais étudiant. J'ai travaillé comme assistant pour Gatti en tant qu'étudiant. Puis l'année après, quand il est revenu, moi, je n'étais plus étudiant. Lors de ce dernier travail, il a fait venir, pour accompagner son travail d'écrivain et de metteur en scène de théâtre, une équipe vidéo. Mon frère est venu nous rejoindre, travailler avec nous. Et il nous a dit à mon frère et à moi, intéressez-vous un peu à ce que fait l'équipe vidéo là. Et je pense que les choses ont commencé à prendre forme, un peu à coaguler à partir de ce moment-là.
Luc Dardenne, une autre rencontre aurait pu provoquer autre chose?
Non, je crois que c'est lui qui nous a réunis. Comme on était frères, on avait un père spirituel, donc on est resté ensemble quand il est parti. Et il nous a un peu manqué au début, évidemment, parce que on était des purs autodidactes, parce qu'on n'avait jamais vraiment travaillé avec cette vidéo et ce micro avec lui. On l'avait vu travailler. Et donc, on a commencé à zéro, si je puis dire, ou à moins 5, moins 10, enfin, plutôt. Et voilà, on a cherché à comment faire un plan, comment enregistrer une voix, et puis comment mixer, comment monter, quand les tables de montage sont apparues, parce qu'au départ, il n'y en avait pas. On montait avec la gâchette de la caméra.
Vous tourniez monter, comme on dit.
Voilà, exact.
Et je pense que cette rencontre, c'est aussi une confiance qui était donnée. Je pense qu'on s'est mis en route aussi, si je puis dire, parce que Gatti, lorsqu'on travaillait avec lui, avait manifesté de la confiance envers nous. Parce que vous pouvez rencontrer des gens et puis vous admirez leur travail, mais et puis voilà. Mais là, c'est parce que je sais pas. Il nous a donné confiance. Il nous a dit que voilà qu'on pouvait travailler aussi et Et je pense que ça, c'est ça qui a été déterminant.
Mais ce qui fait que, en commençant directement par une pratique, avant même de vous poser des questions, grâce à Armand Gatti qui vous a poussé, vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire ces films-là? Est-ce que 40 ans après, c'est une question qui revient, pourquoi est-ce que vous faites des films?
On sait rien. Je dirais, Gatti nous a acheté sur le cheval, si je puis dire, et le cheval s'est mis à galoper, on a continué. Voilà, et on galope encore. Bon.
Il vaut mieux pas se poser la question?
Ben, je crois, oui. Surtout qu'on est frères. Alors, je commence à se poser la question, mais pourquoi en plus, entre frères, pourquoi? Bon, on commence à faire une psychanalyse sauvage de notre travail. Je crois que c'est pas notre rôle. Je crois que nous, ce qui nous tient, je pense, c'est d'avoir toujours ce désir de faire un film, un nouveau film, et d'être interpellé par ce qui se passe dans le monde et d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de regarder ce qui se passe à travers nos films. Voilà. Quand ce désir-là s'éteint, bon, à ce moment-là, je crois qu'on arrêtera, mais là, je crois qu'on se pose des questions quand peut-être le désir n'est plus vraiment là. Donc c'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop s'en poser.
Le désir est là aussi parfois accompagné par des films qu'on a aimés. Vous êtes beaucoup nourri de cinéma avant de passer vous-même derrière la caméra et à imaginer des films. Il y a un univers cinématographique qui vous faisait rêver. On peut penser à Bresson, au néo-réalisme italien en ce qui vous concerne.
Pierre oui. Là aussi.
Oui, en même temps.
Et, ben, les Japonais, Mizoguchi, en fait tous les films de la cinémathèque, mais qu'on a vu plus tard, pas à 20 ans, plutôt à 30 ans.
Oui, c'était pas une pratique d'adolescence du tout.
On avait le cinéma de l'école, oui, là, notre collège, c'est-à-dire le lycée, comme on dit en France, avait un ciné-club. Donc on a vu pas mal de films, notamment Bresson, effectivement, et puis Bertolucci, Louis Malle, Truffaut. Donc on voyait des films, évidemment. Et ça, c'est, je crois, le premier contact vraiment avec le grand écran. Même si c'est un grand écran qui était comme la table ici, un peu plus large. Bon, voilà, c'est notre premier contact. Et de parler d'un film et de penser qu'un film disait quelque chose, qu'un film méritait une interprétation, une discussion après l'avoir vu. Et c'était pas une simple consommation.
Mais à regarder votre cinéma, on imagine que les films qui vous intéressaient, qui vous intéressent sûrement encore maintenant, sont les films qui posent des questions plutôt que les films qui apportent des réponses, les films d'interrogation plutôt que les films de certitude, hein. Jean-Pierre Dardenne.
En tout cas, moi, mes grands souvenirs de spectateur, faut pas non plus vouloir être trop exclusif et trop, mes grands souvenirs de spectateur, c'est entre autres Bresson, parce que la première fois que je les ai vus, je savais pas qu'on pouvait faire des films comme ça. Je ne savais pas que ça pouvait exister. Ni l'éducation que nous avions, ni l'environnement dans lequel nous étions, ne nous avait préparé à ça. Voilà, là j'ai été ébranlé, et c'est pas pour ça que je me suis dit, ah, tiens, un jour on fera du cinéma, mais en tant qu'être humain, comme on peut l'être aussi par des romans, on se dit, tiens, merde, il y a quelqu'un qui nous raconte quelque chose dans une forme qu'on n'imaginait même pas qu'elle puisse exister, et cette forme m'a fait découvrir des choses sur moi que je ne soupçonnais même pas. Et ça, c'est formidable, que ce soit un film, une peinture, un roman, voilà. Mais c'est vrai que ça s'est passé au cinéma, entre autres, je dis pour moi, c'est les films de Bresson. Parce que après, les autres films dont vous avez parlé, en tout cas la plupart, ce sont les films que j'ai découverts après, et je suis un spectateur de cinéma un peu tardif. Je peux pas dire qu'à 20 ans, j'avais fait le... Bon, je lisais ce matin... le début du livre de Michel Simon, où il raconte son parcours d'homme et son parcours de critique. Oula, tout ce qu'il avait vu avant d'avoir 20 ans, c'est extraordinaire. J'étais loin, je n'avais rien à voir, rien à voir avec ça. Quelques films, et puis les films, voilà, mais pas. Je me suis jamais dit à un moment donné, en tout cas à cette époque, tiens, après je ferai du cinéma avec Luc.
Amen. Et vous parlez de peinture, vous parlez de littérature. Il y a d'autres formes d'art qui, je ne dirais pas qui influencent votre travail, mais avec lesquelles vous vous sentez en dialogue.
Oui, oui. La littérature, sans doute. D'abord la littérature, le théâtre aussi. Et puis la peinture, mais quand même d'abord la littérature. Okay. Le théâtre, Shakespeare, bon, voilà, c'est quelqu'un, les pièces que j'ai lues, que j'ai vues, ça... Ça a beaucoup compté pour moi, et encore maintenant, d'ailleurs, je suis en train de voir tout ce que la BBC a fait, là, toutes ces mises en scène, qui ne sont pas toujours extraordinaires, d'ailleurs. Mais enfin, il y a le texte.
Et les comédiens anglais.
Bon, voilà, La littérature est une chose vraiment essentielle.
Et la peinture, quels sont les peintres avec lesquels vous pouvez vous sentir en résonance?
Je vais bien vous avouer que si j'étais tardif en cinéma, j'étais tardif en beaucoup de choses. J'étais aussi tardif en peinture. Et c'est venu un intérêt, un peu une curiosité, curieuse, dirait l'autre. C'est venu un peu tard. C'est lié à mes premiers voyages en Italie. Voilà, c'est en Italie. Et c'est resté là, d'ailleurs, en grande partie. Une grande découverte pour moi, il y en a d'autres, et c'est toujours un peu dommage de voir dire, Morandi. Voilà. Le peintre italien Morandi, pour moi, était une grande découverte, et je suis resté très, très attaché à ce moment de découverte, et chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir revoir des peintures de Morandi. Voilà, pour moi, ça reste quelqu'un d'important.
Quand vous commencez à y penser à un film, là, on va commencer à rentrer vraiment dans le secret de la fabrique, la petite fabrique des frères Dardenne. C'est d'abord en image que ça s'impose. Est-ce que c'est une image qui peut donner l'idée d'un film? Est-ce que c'est un questionnement? Est-ce que ce sont des rencontres que vous faites? Quelque chose que vous lisez dans le journal? Prenons l'exemple de La fille inconnue. On va vraiment s'appuyer sur ce film. Qu'est-ce qui donne la première idée? Vous vous en souvenez déjà?
La fille inconnue, la première idée... Je pense que c'est le personnage du médecin, parce qu'il était déjà apparu plusieurs fois. Dans Le Fils, Gourmet n'était pas professeur de menuiserie, il était médecin. Et pour attirer l'assassin de son fils, il allait se renseigner pour voir où il avait son appartement surveillé. Et... il allait ouvrir un petit cabinet dans le coin, en espérant qu'un jour il soit malade et qu'il vienne se livrer, qu'il vienne se faire soigner dans son cabinet. Et puis, le médecin est revenu encore dans le gamin au vélo. Samantha n'était pas coiffeuse, elle était médecin. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu énorme, à la fois d'être la personne qui soigne la vie, qui en même temps va prendre en charge ce gamin. Et donc on a oublié le médecin, elle est devenue coiffeuse. Et le médecin est revenu ici, et là on l'a gardé. Et alors c'est la situation qui a fait revenir le médecin, si je puis dire, la situation de quelqu'un qui, involontairement, n'ouvre pas sa porte à quelqu'un qui va mourir. Elle ne sait pas évidemment qu'elle va mourir, sinon peut-être elle aurait ouvert sa porte. Mais elle est prise en autre chose. On n'avait pas encore trouvé quoi exactement au départ, mais on savait, que va provoquer la culpabilité de ne pas avoir secouru cette fille. Qu'est-ce que ça va provoquer chez notre docteur? C'était ça l'idée. Voilà, le médecin, et là on avait quelque chose de très contradictoire avec le fait d'être médecin et de laisser mourir quelqu'un, si on caricature un peu la situation, puisque le médecin protège la vie, soulage la souffrance, éloigne la mort. Bon, donc il y avait la possibilité d'avoir une situation... où elle est à la fois tous les êtres humains qui n'ouvrent pas leur porte, et en même temps le médecin dont la profession est d'ouvrir sa porte, pas la laisser fermer jour et nuit, si je puis dire, dans le principe en tous les cas, dans le serment d'Hippocrate. Bon voilà, c'est parti de là, et du fait aussi que la personne à qui elle n'ouvrait pas la porte était une immigrée. Voilà, une jeune femme, vraisemblablement africaine, en tous les cas noire de peau, et sans identité. Donc, ce qui, effectivement, n'a fait que renforcer cette idée de faire ce film dans la mesure où il y avait tous ces gens qui mouraient en mer et qui meurent toujours en mer, et sans identité.
Il y a un lien entre vos films. On a quand même le sentiment, vous dites qu'une idée peut traverser des films, puis finalement être abandonnée et revenir, mais certains de vos films, de manière très évidente, et pas seulement parce qu'ils se passent tous dans le même environnement, dialoguent les uns avec les autres. On pourrait dire que le silence de Lorna est une sorte de contre-champ de la promesse, et que la fille inconnue poursuit ce travail. Cette fille inconnue aurait pu dormir dans le gourbi d'Olivier Gourmet dans La Promesse. Comment est-ce que vous pensez vos films les uns par rapport aux autres, les uns contre les autres?
Vous voulez dire que Gourmet est l'espèce de matrice dans tous nos films?
La Promesse contient en tout cas Gourmet et autres. Gourmet contient Gourmet, ce qui est déjà beaucoup.
Il était plus gros à l'époque. Hein. Il avait 30 kilos de plus.
Il a bien maigri, ça lui a fait beaucoup de bien. D'ailleurs, il est très élégant maintenant. Mais non, mais est-ce que les films comme ça, vous les pensez en résonance les uns avec les autres, ou il vaut mieux s'abstraire de ce qu'on a déjà fait?
C'est impossible de s'abstraire. C'est impossible. Même ce qu'on peut juste éviter, c'est de ne pas s'alourdir. Ils sont là, on le sait. Donc il faut vivre avec, il faut se débrouiller avec. Et en tout cas, on vit avec, on se débrouille avec, en tout cas on essaye. Pas en tout cas en se disant que nous allons créer des réseaux entre les films et que le film machin va être une réponse à. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais en même temps, on peut pas dire qu'ils ne sont pas là. Ils sont là et il faut vivre avec, il faut se débrouiller avec. Quoi qu'on fasse, nous ne serons jamais plus les cinéastes qui allons tourner le premier plan de La Promesse. Ils sont là. Donc maintenant, comment, tout en sachant qu'ils sont là, continuer à faire des choses qui ne se contentent pas d'être uniquement des variations ou des répétitions d'eux, même si on sait bien que finalement, à peu près tous nous sommes comme ça, on raconte quand même à peu près tous tout le temps la même chose. Non, mais c'est comment essayer d'encore raconter? C'est un peu les questions qu'on se pose maintenant. On essaie de redémarrer sur une nouvelle histoire. Voilà.
C'est le personnage, je crois. C'est le personnage qui... Enfin, je dis le personnage... Parfois, on dit la personne entre nous, parce que c'est plutôt le théâtre qui parlera de personnage. Enfin, quand même, c'est cet individu qu'on invente et qui, à un moment donné, vous capte. Il vous prend et c'est lui qui vous emmène. Et s'il n'y a pas ça, alors il faut pas faire le film. Donc, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Et qu'on a, notamment, La Fille Inconnue, on a reporté 3 fois le projet parce que elle ne nous captait pas, elle ne nous saisissait pas. Voilà. On pouvait pas investir un désir dans ce qu'elle faisait, voilà. Donc il faut attendre ce moment-là et je crois que c'est ça, c'est pour ça qu'on peut redémarrer. C'est toujours autour de quelqu'un qui nous échappe aussi. On sent bien, on prépare un film pour l'instant, voilà, on pense au personnage et il est comme ça, mais il nous attire et il nous échappe et c'est pour ça qu'il nous attire. D'autant plus. Donc quand on sent ça, avec une situation évidemment, il n'est pas hors situation, hors contexte. Il est souvent dans notre ville. C'est là qu'on tourne, c'est là qu'on le voit, qu'on la voit, si c'est une femme, directement. Elle vient avec la ville, avec une rue, avec une maison. Vous parliez d'images tout à l'heure, mais par exemple, La Fille Inconnue, le cabinet médical, il est venu là où on l'a trouvé. On savait qu'on le mettrait sur la voie rapide face à la Meuse, là où, dans un lieu qui s'appelle le Val-Saint-Lambert, qui est près de Serein, là où il y avait les cristalleries du Val-Saint-Lambert, mondialement connues. Et voilà, on le savait. Quartier déshérité aujourd'hui. Et on l'a vu, et on a pensé dans le scénario déjà, les voitures qui passent, le bruit des voitures, des camions, des bus, c'était déjà présent. Mais il faut vraiment ça, une accroche qui vient pas d'une image, qui vient pas d'un son, qui vient, je dirais, du personnage principal. Parce que nos films, en gros, ce sont des portraits en mouvement, avec beaucoup de détours. Mais c'est ça quand même. Le contour de nos films, c'est celui d'un portrait.
Mais avec beaucoup de détours et beaucoup de détails aussi, et c'est ce qui fait que vos personnes dans les films existent, parce que on se souvient la manière qu'avait Olivier Gourmet dans Le Fils de mettre sa cendre de cigarette dans la petite poche de sa salopette, et tous ces, vous l'avez même théorisé, entre guillemets, écrit, en tout cas, de trouver de tous ces petits gestes, ces petits stratagèmes dont vous parlez pour échapper à la psychologie des personnages. Ces gestes, ils se trouvent dès l'écriture du scénario, parce que votre personne existe comme ça, ou c'est un travail qui va s'effectuer plus tard?
Il me semble qu'en grande partie, même s'ils ne vont pas s'incarner de la manière dont ils sont écrits, quoique ça dépend, en grande partie ils sont dans le scénario. Enfin, en tout cas, l'importance des accessoires, l'importance des gestes est dans le scénario. Et si ils ne sont pas dans le scénario, c'est le scénario qui nous donne, pendant nos répétitions, voilà, qui nous donne l'occasion de pouvoir faire lever la patte, si je puis dire. Mais quand même, puisqu'ils sont, ça fait un partie intégrante de l'écriture de l'affaire. Même si les répétitions peuvent faire bouger des choses, à l'intérieur du scénario, il n'empêche que ce ne sont jamais des choses essentielles et, excepté, non, jamais des choses essentielles. C'est à l'écriture du scénario, c'est déjà là, me semble-t-il, hein.
Et pour écrire un scénario, vous avez une certaine discipline, entre guillemets, parce que le moment du tournage est très réglé par un planning de tournage, mais est-ce que vous appliquez des méthodes de travail qui reviennent d'écriture en écriture?
On fait une structure ensemble du récit, les moments essentiels, mais en même temps, on se trouve des détails déjà, parce que le gamin au vélo, par exemple, on l'a toujours vu avec son vélo.
Il est venu avec son vélo.
Il est venu avec son vélo.
Sinon, ça s'appellerait pas le gamin au vélo, effectivement.
Non, non, mais on l'a appelé le gamin au vélo un an plus tard.
Ah oui. Ça s'appelait comment au départ?
Pitbull.
Pitbull.
Ouais. Puis le distributeur a dit, écoutez, si vous voulez vous priver d'une grande partie du public, appelez-le Pitbull. Donc on a obéi, on a obtempéré. Et c'est bien, le gamin au vélo, c'est très bien. Donc, il est venu avec son vélo, et il passait sa rage sur son vélo. C'est comme ça qu'on le voyait au début. Sa violence, il a passé sur son vélo, en faisant de l'équilibre, en levant la roue avant, en bougeant avec. Bon, voilà. Donc, il y avait quand même cet élément-là.
Et, chaque personnage, Rosetta est venue avec, ses gaufres, et son système de pêche.
Et son système de pêche.
Et sa caravane. Enfin, vous voyez tout ça.
Il y a quand même de chaque fois des liens. Oui, quand je disais le personnage tout à l'heure, c'est il est tout de suite lié à des choses, à des objets, à un logement, à un environnement sonore. Il y a quand même ça chaque fois qui est là.
Parce que, enfin, je me souviens de, je reparlais de Rosetta parce qu'on en a beaucoup parlé avant de, pendant qu'on faisait la structure. C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais cette fille, elle habite dans une caravane et pas dans une maison. Une habitation sociale, c'est parce qu'on s'est dit ça qu'à un moment donné, il y a une histoire peut aussi commencer à se dérouler et qu'il y a des situations qui apparaissent qui ne seraient pas apparues si elle avait habité, je sais pas moi, dans une petite habitation, un petit appartement, un petit meublé, on pouvait pas raconter la même histoire.
Mais ça provoque d'autres situations. Ouais. Ouais. Alors vous venez de prononcer le mot, le producteur. Il y a un producteur dans l'affaire, mais pourtant les producteurs c'est vous. Vous avez créé votre propre maison de production, les Films du Fleuve, avec vue sur la Meuse dont on a déjà parlé. Mais le producteur c'est Denis Fred, celui qu'on appelle le troisième frère d'Ardenne. Quel dialogue vous avez avec un producteur qui est en même temps intégré à votre maison?
C'est un ami de longue date. On s'est retrouvés en 2001, en 2000 exactement, pour commencer la production du fils. Et c'est un regard important pour nous. Il lit notre scénario. Quand on pense qu'on a une version qu'on peut montrer, qu'on peut faire lire, c'est souvent vers la 5-6e. Et alors on écoute attentivement ce qu'il nous dit. On réfléchit à ses critiques. Et on retravaille. Donc voilà, et alors sur les rushs également, il est là, il vient, il passe sur le plateau 4-5 fois pendant le tournage. Et, et puis au montage. Donc c'est un vrai partenaire. C'est un vrai partenaire, mais un vrai partenaire qui n'est pas le partenaire qui vous dit non, ça on peut pas faire parce que l'argent va manquer. Là, c'est nous qui sommes producteurs délégués, Jean-Pierre et moi. Et Denis est notre coproducteur. Mais c'est vrai qu'on a un rapport avec lui, un rapport que des cinéastes peuvent avoir avec un producteur.
Et c'est important ce rapport, parce que vous avez beau être deux, il y a un moment où vous êtes seul quand même.
Tout à fait, oui. Ça, c'est une illusion de croire que quand on est deux, c'est nécessairement mieux, plus facile, je veux dire. Non, on est aussi angoissé. Et on se dit, peut-être va-t-il trouver une solution pour ce problème qu'on rencontre. C'est surtout au tournage, évidemment, que la solitude est grande.
Maintenant, on va y arriver au tournage, ouais. mais puisqu'on parle de production avec votre société Les Films du Fleuve, vous êtes producteur, vous aussi, de Christian Mounjou, de Ken Loach, de Benoît Jacquot.
Coproducteur.
Mais enfin, vous intervenez quand même, vous avez un dialogue où là, tout d'un coup, vous changez de côté et vous vous adressez.
Non,
c'est amicalement.
Non. C'est des histoires d'amitié avec des producteurs ou avec des cinéastes, mais c'est d'abord ça. Et nous disons quelque chose si on nous sollicite, mais si on ne nous sollicite pas, on ne dira pas.
Mais est-ce qu'on vous sollicite?
It depends.
Parfois, oui.
Voilà, ça dépend.
Il y a quelques films quand même où il y a un film qu'on produit pour l'instant, un film belge.
Ça, c'est différent.
Oui, ouais. C'est le premier film qu'on produit vraiment, qui est d'une jeune cinéaste belge.
Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'on peut comprendre que vous ayez
une
maison de production pour vous, pour vous garantir votre liberté, le contrôle de votre film, pour pas vous faire embêter par des questions d'argent qui arrivent sur l'artistique quand il n'est pas question que ce le soit. Mais le fait de produire d'autres personnages, d'autres réalisateurs, c'est une vraie démarche.
En documentaire, on l'a toujours fait.
Avec Dérive.
Oui, Dérive. On a toujours produit d'autres documentaires, d'autres documentaristes. Et puis là, on a continué avec la fiction. Et en même temps, il faut aussi parler de l'aspect financier d'une société de production. C'est bien de produire d'autres gens. Parce qu'on a quand même quelques personnes qui travaillent chez nous. Avec nous, ça fait 7 personnes qu'il faut payer tous les mois. Et qu'il y a nos films, bon d'accord, nos films rapportent un peu d'argent et permettent de payer une bonne partie des choses, mais le fait de coproduire d'autres films permet également de faire travailler les gens de chez nous sur ces films et donc d'être payés sur ces productions. Donc c'est aussi un élément important.
Et il y a aussi quelque chose qui,
Jean-Pierre Dardenne,
qui est intéressant, qu'on fait vraiment, c'est vraiment très très rare, puisque comme je viens de vous le dire, on intervient très très peu, sauf si on nous le demande. C'est ce qu'on aimait bien dans le documentaire, c'est de voir quelqu'un d'autre qui travaille. Et de voir quelqu'un qui travaille, qui fait le même métier que vous, qui le fait autrement, de voir comment il résout les problèmes auxquels il est confronté, comment il arrive ou pas à les résoudre. Et ça, c'est intéressant, parce que ça, si vous pouvez l'aider, tant mieux. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, vous apprenez aussi beaucoup en regardant quelqu'un d'autre qui travaille.
Alors on va progresser dans la fabrication du film. Vous avez un scénario, vous avez un producteur, vous-même et Denis Fred. Vous avez réussi à réunir de l'argent, ce qui n'est pas toujours facile dans les temps actuels. Et puis, il faut maintenant trouver les comédiens qui vont incarner vos personnes que vous avez imaginées. Comment se passe le casting chez vous? C'est une étape, j'imagine, très importante. Vous avez révélé beaucoup de jeunes comédiens, Émilie Dequesne, Jérémy Régnier et tous ceux. Et Olivier Gourmet, même s'il avait déjà 10 ans de théâtre derrière lui. Comment ça se passe, un casting chez vous? Qu'est-ce que vous cherchez?
Oui. Juste avant de parler du casting, j'ajouterais aussi qu'on a une productrice exécutive qui est Delphine Thompson et qui c'est elle qui monte la production, c'est pas nous.
Elle qui va faire les 20 guichets qu'il faut parfois
c'est elle
pour trouver l'argent.
Voilà, et puis bon, qui trouve les gens, voilà, oui. Alors, le casting, on le fait nous-mêmes. Si vous voulez, on dit voilà, on annonce dans la presse, internet maintenant, bon là, nous cherchons une jeune fille, un jeune homme, un enfant, bon voilà. Et puis les gens répondent. Ils envoient une lettre, une photo. Et puis on choisit, bon, avec le risque que ça comporte, sur à partir de la photo, de la petite lettre qui accompagne. Et puis on voit ces gens et on les filme. Et Jean-Pierre joue une scène, moi une autre. Enfin, pour l'instant, c'est le caméraman qui s'occupe du casting, c'est mon fils, aîné. Et voilà, il filme. Et nous, on joue les scènes avec les futurs acteurs. Ou bien les acteurs déjà confirmés, mais qui passent quand même le casting. Et tant qu'on n'a pas trouvé, on fait rien, on commence rien.
Et qu'est-ce qui fait qu'on trouve, justement? C'est la rencontre entre un personnage que vous aviez imaginé, vous cherchez la personne qui ressemble à celui que vous avez imaginé, vous cherchez quelqu'un qui va vous surprendre, ou quelqu'un qui vous fasse rêver, qu'est-ce qui...
C'est difficile à dire, donc je pense qu'on va se compléter dans ce qu'on va dire, parce que c'est pas une science exacte, hein. Mais nous, dans le scénario, il n'y a pas, Rosetta est une jeune fille qui a les couleurs de cheveux bruns et qui a le visage qui rougit rapidement. Jamais. Donc, on se laisse surprendre. Rosetta aurait pu être une grande blonde ou une petite noire. Ça, on ne sait pas. Donc, on se laisse surprendre, a priori. On a l'âge, hein, plus ou moins l'âge. Je parle maintenant des gens qui n'ont jamais travaillé. Je parle pour Rosetta, je parle pour Jérémy, le gamin au vélo. Déborah dans l'enfant, Déborah François dans l'enfant. Donc des gens qui n'avaient jamais travaillé et qui ont ou le rôle principal ou un rôle très important dans les films. À un moment donné, on pense qu'il y a une rencontre possible avec le personnage qui est là, qui existe sur du papier. Et parfois, ce qui nous a déterminé, entre autres pour le gamin, le jeune comédien qui a joué le fils, c'est la possibilité qu'il avait de rester devant nous, silencieux, et de nous résister. Quand on lui posait des questions, il se taisait, il ne répondait pas. On s'est dit, ce gars, la présence qu'il impose avec son silence, ça, c'est le personnage. Il ne le savait pas, mais c'était ça. Voilà pourquoi lui, on l'a choisi. Parce que aussi, il avait bien fait d'autres choses. Mais il y en avait peut-être d'autres aussi qui avaient les autres choses qu'il avait faites aussi bien. Mais là, ce garçon, comment il arrivait à nous résister? Comment il arrivait à résister à cette caméra, que la caméra ne le transperçait pas? Voyez-vous? Voilà, pour Rosetta, c'est autre chose.
C'est compliqué de dire, mais je pense quand même que pour nous, comme nous travaillons à deux, c'est quand même le fait que tous les deux, on sent la même chose. Si on ne le sent pas, on prend pas la personne, on n'engage pas.
Et vous avez, oui, c'est des formes d'apparition. Quand on a le gamin au vélo, c'est le cinquième, premier jour de casting, c'est le cinquième garçon. qu'on voit, et qu'on voit ce gamin qui a l'air d'avoir 11 ans alors qu'il en a 12 et demi, 13, et qui n'a jamais fait ça, et on lui dit, il y a une petite scène, tu es au téléphone, tu téléphones, et en fait tu téléphones à ton père, et ça ne répond pas, et que pendant qu'il appelle, vous avez le sentiment que ce gamin, il y a quelqu'un qui est au bout du fil, et que quand vous voulez lui reprendre le téléphone, parce que c'est nous qui jouons l'éducateur, il se referme sur le téléphone, et vraiment, vous vous dites, voilà, c'est lui. Et puis on a continué à voir, mais on s'est dit tous les deux, séparément, on s'est dit c'est lui, et c'était lui. Hein.
Même si on sent qu'il y a encore du travail à faire, parce qu'il était bien dans la scène, mais bon, il y a plein de choses qu'il ne savait pas faire, qu'il faisait bon. Donc on s'est amusé pendant un mois et demi à travailler avec lui, comme avec Rosetta.
Et ça se travaille sur quoi? Sur des exercices, des répétitions
le
à partir
corps,
du texte?
Très concret, des gestes. Par exemple, le gamin en vélo, pour passer à un autre film, il ne savait pas se battre. Il ignorait les gestes qu'il fallait faire pour se battre. Et il n'aimait pas les faire. Parce que c'est un garçon, d'ailleurs, il étudie la médecine, il réussit très bien. C'est un petit intellectuel qui se tient à distance des choses, qui observe. Il ne rentre pas dans la bagarre. Il ne fonce pas. Il fallait qu'il le fasse dans le film. Donc, on a commencé à se battre avec lui, à essayer des coups, de faire tomber de son vélo sans qu'il ne se fasse mal, qu'il roule sur le sol, se relever, courir après là, Jean-Pierre ou moi. Donc voilà, on a travaillé beaucoup des choses physiques. Et c'est comme ça qu'il est devenu le gamin au vélo. Et sur son vélo aussi, parce qu'il ne savait pas non plus, il avait jamais fait ça, rouler sur une roue. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est toutes des choses physiques qui fait que, bon, son corps s'est modifié, il s'est même un peu développé ici aux épaules, il est devenu beaucoup plus musclé, si je puis dire aussi, et il est devenu un peu quelqu'un d'autre, grâce à ces deux mois de travail, de répétition, quoi, un mois et demi. Et voilà, c'est à travers des choses physiques. Te retourner à telle vitesse, marche plus lentement, marche plus vite, baisse-toi plus vite, tu tombes, tu fais un croche-pied, voilà. On fait ça, et on filme ça, nous, parce que toutes ces répétitions, on les filme avec notre caméra vidéo, et puis le soir, on regarde, et puis le lendemain, on lui dit, bon, ce que t'as fait hier, c'était bien, on va essayer de faire quand même un peu autre chose, et voilà. Et, bon, en même temps, ce gamin était formidable, parce qu'il a trouvé des choses sur le plateau, parce qu'un enfant, bon, Truffaut l'a dit, tout le monde l'a dit, mais bon, on ne dirige pas un enfant. On le conditionne, on fait du conditionnement. Bon. Mais à un moment donné, il est là, et bon, il faut pas dire, regarde par là, non, pas si, un peu plus, tu vois, non. Sinon, il vous obéit, et vous filmez qu'il obéit à une voix qui vient de l'extérieur, de hors cadre. Donc, il faut le laisser. Et lui, quand on l'a laissé, il a été magnifique. Hein. Il nous a vraiment émus plusieurs fois, et l'actrice aussi, Cécile de France aussi, elle l'a trouvé formidable. Parce qu'il avait, bon, il était là. Un peu, bon, c'est une comparaison un peu facile peut-être, mais un peu comme un animal, comme un jeune chat. Vous voyez, il est là et il est là. Et il a oublié que la caméra était là. Lui, il fait ses trucs et puis bon, voilà. Il y avait qu'une chose qu'il savait, c'est que c'est pas lui qui décidait d'interrompre une prise. S'il avait entre guillemets mal fait quelque chose, il ne devait pas nous dire. Bon, donc, et parfois il faisait pas exactement ce qu'on avait demandé, mais c'est rien. Voilà. Tant qu'on n'arrêtait pas, il continuait. Voilà, on a trouvé des choses formidables avec lui qu'on a conservé au montage, parce que vous comprenez, quand vous travaillez avec des gens si jeunes, ils vous donnent beaucoup, ils ne le savent pas, et nous on est un peu des vampires. on suce un peu le sang de nos acteurs. On se dit tiens, formidable ce qu'il a fait, il ne le refera peut-être jamais, mais voilà, on l'a enregistré. Il faut savoir enregistrer, laisser venir, quoi. Et voilà.
Dans ce travail, est-ce qu'il est possible avec des comédiens, des comédiennes en l'occurrence, professionnelles entre guillemets, puisque maintenant depuis trois films, vous venez de parler de Cécile de France, il y a eu Adèle Haenel l'an dernier, Marion Cotillard auparavant. Quel travail vous faites pour aller contre ce dont vous vous méfiez beaucoup au début, qui est le métier, qui est le professionnalisme?
On répète beaucoup.
Sur place, sur les décors
Ah oui, on répète un mois et demi avant de commencer à tourner. Luc, moi, notre petite caméra que nous tenons, Luc ou moi, et les comédiens. Dans les lieux qui vont être les décors du film et qui pour, en tout cas en ce qui concerne les principaux lieux, sont déjà pratiquement aménagés pour le tournage. Et les répétitions vont entre autres servir, mais c'est pas pour ça qu'on les fait là, vont entre autres servir à améliorer, à modifier la circulation dans ces décors et à modifier parfois des espaces pour le bien de la mise en scène. Ce travail, c'est un peu, c'est une expérience vivante. C'est comme quand vous êtes spectateur d'un film. Vous aurez beau en parler et en parler le mieux possible, il y a une partie de cette expérience vivante que vous avez vécue que vous n'arriverez pas, ou en tout cas très difficilement, à faire partager. Hein? Donc, ce que je dis, c'est une espèce de traduction un peu hésitante et balbutiante de ce que nous essayons de faire. C'est-à-dire, on essaie que les comédiens, finalement, au bout de ce mois et demi de répétition, soient le plus nus possible. C'est-à-dire qu'ils soient le plus disponibles possible, le plus présent possible. Voilà. En même temps, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire...
pas être dans la performance.
Qu'ils ne sont pas dans la performance. On est là pour donner naissance à des gens qui n'existent pas. C'est ça qui est beau avec Adèle, avec Cécile, avec Marion. C'est de voir comment, jour après jour, elles y arrivent. Chacune à sa façon, mais elles y arrivent. C'est les répétitions, c'est tous les essais costumes qu'on fait le soir.
Voilà, ça passe beaucoup. Ça passe beaucoup par le costume chez vous, la création d'un personnage. C'est la ceinture en cuir d'Olivier Gourmet dans Le Fils. C'est là, par exemple, pour La Fille Inconnue, c'est ce manteau de laine un peu lourd que porte Adèle Haenel. Vous passez beaucoup de temps à chercher le costume qui va créer ce personnage.
Oui. Beaucoup de temps avec l'acteur, avec l'actrice. Ici, Adèle était... voilà, elle se laisse faire en même temps. Elle dit des choses. La costumière, la chef costumière, Mayra aussi, évidemment. Donc, y a un échange. Mais on aime tourner tous les jours, pendant les répétitions, les 5 semaines, les 6 semaines de répétition, on aime tourner avec des costumes déjà choisis, qui ne seront peut-être pas ceux du film. D'ailleurs, la plupart du temps, non. Mais quand même, on essaye quelque chose de vert, de rouge, avec un motif, avec la jupe, le pantalon, les talons, pas les talons, etc., etc. Et on cherche. Alors, quel bruit, la démarche, quel bruit ça fait pour le son. C'est tout ça, les costumes. C'est pas seulement de l'image, c'est aussi du son, évidemment. Ce qui enrage parfois l'ingénieur du son.
Jean-Pierre Duré, un de vos fidèles. Il faut le dire, on l'a pas dit, que vous travaillez entouré d'une équipe qui est la même depuis La Promesse. On va les citer. Alain Marcouen à la direction de la photographie, Benoît Dervaux à la caméra, Jean-Pierre Duré au son, et on parlera tout à l'heure du montage, Marie-Hélène Dozo au montage.
Et Igor Gabriel au décor.
Igor Gabriel au décor, et votre costumière, et
Mayra,
et tant d'autres.
C'était Monique Parel, et puis Mayra depuis 3 films.
Travailler avec cette même équipe depuis si longtemps, ça permet de pas perdre du temps à expliquer ce que vous voulez ou non, il faut le refaire à chaque fois. Je vois, pour ceux qui n'ont pas l'image, il y a une petite grimace.
Non, mais j'espère qu'on n'est pas devenu une espèce de vieux couple. C'est-à-dire que soi-disant on n'a plus besoin de se parler parce qu'on se comprend et en fait on ne se comprend pas. Mais on ne se parle plus en fait parce qu'on n'a plus envie de se parler. Non, j'espère que chaque fois, en tout cas, il y a suffisamment de confiance qui s'est installée entre nous, pour qu'on puisse se parler justement, et que nous ne soyons pas considérés comme des gens à qui on ne peut pas apporter la contradiction. Ça, je pense que c'est le truc le plus dangereux qui puisse nous guetter après avoir fait quelques films, c'est que on dit ah ouais mais ils ont dit ça. Oui, on l'a dit. Alors oui. Peut-être on a raison, peut-être non. Donc c'est bien d'avoir de travailler avec des amis qui, même s'il y a parfois des rapports un peu tendus, et même si on ne va pas nécessairement dans le sens dont ils parlent, mais c'est bien qu'au moins il y ait des échanges. Sinon, alors c'est le danger, je trouve. Enfin pour moi, en tout cas, c'est le danger justement de travailler avec des gens soi-disant où on n'a plus rien à se dire parce qu'on se connaît. Oui, en partie c'est vrai, mais il faut quand même qu'on continue à se parler et qu'on continue à oser nous parler, parce que sinon alors ça ronronne.
Hein. Ça permet aussi de pouvoir afficher cette confiance, ça permet de pouvoir afficher des doutes, par exemple, les moments où on cherche, parce que vous êtes des cinéastes chercheurs, enfin vous n'arrivez pas avec tout est établi à l'avance, il n'y a plus qu'à tourner, et on sait que dans des équipes de films, parfois le cinéaste qui doute, c'est très déstabilisant pour une équipe, il faut jouer ce rôle de monsieur je sais tout, je sais très bien où je vais, vous le permettez.
Ah, ça vraiment, puisqu'en plus on est deux, donc nous, quand ça va pas, on se le dit. Donc tout le monde l'entend. Donc il y a pas moyen de faire croire qu'on sait ce qu'on sait, alors qu'on ne le sait pas. On doit se le dire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas, on demande à l'équipe de sortir. On reste avec les acteurs, parfois même rien que nous deux, pour essayer de voir un peu comment on va repartir, redémarrer. Non, je crois que ça, c'est bien. Et ça commence dès les répétitions. Et ça, c'est important pour les acteurs. Et pour notamment les acteurs professionnels, ceux qui ont une grande longue carrière déjà derrière eux, ou derrière elle, c'est bien que aux répétitions, on essaye des choses et que ce soit Marion, Cotillard, Cécile de France, Adèle Haenel, Gourmet aujourd'hui, Jérémy Renier, Fabrice Ronjon, ils savent bien que on vient pas faire son truc et puis on s'en va, quoi. On va chercher et on va, à un moment donné, être dans un climat qui permet d'être idiot, de dire des choses idiotes. Parce qu'on cherche et qu'on n'est pas là pour se juger en disant, tiens, t'as dit une chose idiote. Non, on cherche. Et c'est comme ça qu'on trouve, précisément, souvent avec des choses idiotes, qui apparaissent idiotes et qui sont justement idiotes, qui sont simples, qui étaient justes et auxquelles on n'avait pas pensé. Ne fût-ce qu'une manière de tomber, ou bien de tomber sur le lit, de tomber par terre, ou je sais pas. Mais des choses qui viennent comme ça en travaillant avec, en recommençant, parce qu'on croit beaucoup aux vertus de la répétition. Du fait de répéter les choses. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et si on n'avait pas fait ça, si on s'était satisfait d'avoir répété simplement une demi-journée ou d'avoir fait trois prises, bon ben...
Oui, parce que la répétition continue pendant la prise.
J'imagine. Ah oui, pendant le tournage, bien sûr. Oui, bien sûr.
Vous faites combien de prises en moyenne, vous savez?
Ça dépend. Ça un dépend peu moins un peu. Le dernier film. Ouais.
Ça dépend un peu, mais comme dit Luc, les répétitions sont très importantes parce que on dit, oui, mais alors s'il y a des répétitions, nous on pensait qu'il y avait de l'improvisation, donc il n'y a pas d'improvisation. Ah oui, et si on répète, est-ce qu'on ne perd pas sa spontanéité? Et nous, on a plutôt tendance à dire l'inverse, que plus on répète, plus on s'oublie, et plus justement, on devient mécanique, mais mécanique dans le bon sens du mot. C'est-à-dire qu'on s'oublie et qu'on laisse de la place au personnage. Et le travail, même si je sais, le travail c'est aussi une aliénation, le travail a aussi beaucoup de vertus. Et une des vertus du travail, c'est de faire naître, justement, pendant le processus de travail, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé. C'est pour ça que nous, par exemple, on travaille notre film, on le tourne dans la continuité de l'histoire. Parce que le fait de travailler dans cette continuité, si vous voulez, le premier jour de travail alimente ce que va être le deuxième jour. Et vraiment, ça nous a, à chaque tournage, ça nous a donné des idées de plans, des idées d'action, pas seulement à nous, aussi aux comédiens, que nous n'aurions pas eu si on avait tourné dans un ordre qui n'était pas chronologique.
Mais ça peut aller jusqu'à la réécriture du scénario, le film prenne vraiment une direction différente.
Oui, oui. Dans Le Fils, notamment, les dernières scènes. Oui, oui, dans Rosetta aussi. Oui, oui. Quand vous tournez dans la continuité, c'est un peu la continuité de la vie. C'est-à-dire, si on ne tourne pas dans la continuité, c'est comme si on savait déjà quel était le film. On peut commencer par la fin, puis là, puis bon, bon, pif, paf, paf. Et pourquoi pas? Évidemment, les chefs-d'œuvre se sont faits comme ça. Mais nous, on a besoin d'être dans la vie du personnage et de le voir bouger et puis de se dire, tiens, finalement, on n'aurait jamais pensé ça, mais vu qu'il a fait ça et qu'on a trouvé ça, peut-être on pourrait... Ah, mais ça voudrait dire qu'alors, la première scène qu'on a tournée avec lui dans ce décor il y a 3 semaines, il faudrait peut-être y revenir et déjà modifier ce qu'on a fait. Donc, on se permet un peu comme un écrivain, si je puis dire. Comme quelqu'un qui écrit, qui rature et puis qui dit... Ah oui, mais ça, bon, on garde tous nos décors hein, pendant le tournage. On retourne, on libère rien, on démonte rien. On se dit toujours, on ne sait jamais, ou bien rajouter une scène dans Le Silence de Lorna, par exemple, la scène dans où elle repasse, elle travaille dans un pressing. Ben voilà, on l'a refaite parce qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, on s'en a aperçu assez tard.
À quel moment au montage?
Non.
Ça peut arriver. Woody Allen se garde toujours des semaines de tournage après son montage pour pouvoir refaire des prises.
Là, ça coûte très cher. Alors,
un film qui a beaucoup bougé, c'est Rosetta aussi.
Oui,
Rosetta.
Oui.
A beaucoup.
Déjà en répétant.
A beaucoup bougé. Pas avant les répétitions et aussi pendant le tournage.
Et au montage aussi. Oui.
Est-ce que vous pensez déjà au montage au moment où vous tournez? Pour les questions de rythme du film, par exemple, il va falloir la tourner plus ou moins vite, plus ou moins lentement, cette séquence. Vous avez déjà un montage idéal en tête à ce moment-là?
Moi, je dirais que ça n'est pas un peu des films. En tout cas, on essaye... on est deux, donc parfois, on ne réagit pas toujours de la même manière par rapport à sa manière de fonctionner. Moi, quand on tourne, en tout cas, j'essaie de ne pas penser au montage. Mais on pense au rythme. C'est-à-dire que, pour être concret, Le Fils est peut-être le film dont nous avions le moins l'intuition du rythme global, du rythme final. Et la plupart des plans ont été tournés dans des rythmes différents. Ce qu'on fait aussi pour, dans les autres films, de manière moins systématique, mais dans Le Fils, la plupart des scènes ont été tournées dans des rythmes qui nous semblaient a priori normaux, et puis on a fait des rythmes plus lents, puis des rythmes plus rapides. Donc on a beaucoup tourné parce que on sentait moins le rythme global du film. On s'est dit, oh, mais attends, quand même, peut-être il faut aller plus vite, donc peut-être pas, on ne sait pas. Donc on a tourné, ça dépend un peu. Chaque fois, c'est un cas, si je puis dire, un cas d'école.
Luc Dardenne.
Oui, ce sont les plans séquences qui nous demandent ça, parce que on sait que, bien sûr, on peut couper dans un plan séquence. On peut faire des ellipses à l'intérieur du plan. On a tourné en continuité, mais quand même, c'est devant dans la salle de montage, devant l'écran, on sait que les possibilités sont limitées quand même, et que il s'agit, si jamais on sent à un moment donné que le film entre dans un tunnel, dans une lenteur qu'on ne veut pas, et où le film s'enterre, ben, on dit qu'est-ce qu'on peut faire? On doit couper dans les plans, mais est-ce possible? Comment? Donc c'est pour ça aussi qu'on se garantit un peu, si je puis dire, de pouvoir avoir une version plus rapide du plan, ou bien d'avoir un plan plus rapproché des acteurs. Par exemple, dans La fille inconnue, la scène où les deux travailleurs émigrés, apparemment, enfin vraisemblablement sans papier vraiment, sans statut vraiment dans la Belgique, dans le pays où ils sont, on a filmé plus large. On aimait beaucoup au tournage, on a filmé un plan plus rapproché, finalement qu'on a gardé. On a senti au montage qu'on avait besoin d'être plus près du corps, de la jambe du blessé. Là. Voilà. Donc vous voyez, on ne sait jamais avec ces plans séquences, parce qu'on est, quelque part, on est enfermé dedans. C'est une vraie prison. En même temps, on adore ça, et c'est ce qu'on sait faire, je crois. Enfin, c'est ce qu'on sait faire dans le sens où on ne sait peut-être pas faire autre chose. On n'aime pas monter dans le champ contre champ, on travaille souvent avec la même focale. Il y a quelque chose, on essaye de, moi je disais tout à l'heure, on fait des portraits vivants, on fait des portraits en mouvement, et c'est comme si, on se disait, attention, nous ne devons jamais être au-dessus de notre personnage, de nos personnages. Essayez d'être toujours dedans, dans la chose, dans la matière, dans le corps, dans le film. Et que le spectateur ne sorte pas de cela pour regarder les personnages. Qu'il ne puisse pas les regarder, si je puis dire, qu'il soit lié à eux viscéralement. Ça, c'est ça qu'on cherche, voilà. Mais par essai et erreur. Moi, je dis toujours, on est un peu comme des rats dans le laboratoire. Il fait ça, il va là, la nourriture est là, il essaye là, il essaye là. Ah, et finalement, il trouve la nourriture. Espérons que...
On ne soit pas empoisonné.
Voilà. Ça arrive. Ou bien peut-être qu'il y en avait dans deux cases et qu'on n'est pas allé voir dans la deuxième.
Mais c'est le chemin qui compte.
Voilà, ouais, exact.
À quel moment vous vous dites que le film est fini, quand vous êtes au montage, que ça y est, vous l'avez trouvé?
Mais ça dépend des films. Par exemple, celui-ci, on s'est dit que c'était fini alors que ça ne l'était pas.
C'est-à-dire?
Mais vous aviez souhaité qu'on parle un peu de La fille inconnue.
Oui, oui.
Et la plupart du temps, en tout cas jusqu'à présent, il y a un temps de montage qui est imparti. Nous sommes des gens, puisque nous sommes producteurs, nous essayons de rester dans les créneaux que nous nous sommes donnés ensemble. Et il y a un moment donné, vous avez le sentiment que le film est là. Voilà, vous dites là, c'est fini. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous vous dites à un moment donné, bon, c'est fini. Et peut-être que si vous continuez à travailler, non, c'est peut-être.
On va finir par l'abîmer à force de
le polir. C'est peut-être bien. Et il faut aussi, c'est bien. Il est comme ça. Il est comme ça. Et cette fois-ci, pour la première fois, on a fait un film. On a monté. On avait une inconnue sur un plan, mais enfin, c'était pas non plus énorme. C'était, est-ce que ce plan, il y a 56 secondes, est-ce que on le laisse ou pas? On a décidé de le laisser pour le présenter à Cannes, en disant que c'est pas ça qui est bouleversé, même si chaque détail est important, évidemment, que, allez, on va le laisser. Puis il y a eu le passage du film à Cannes. L'accueil a été quand même un peu, disons qu'il était moins favorable que les films.
Partagé, on dira.
Voilà, on dira qu'il était moins favorable que les films précédents. On dira partagé. Et des amis qui nous veulent du bien nous ont dit, il y a des moments où ça patine, il y a des creux, il y a un problème de rythme, non? Bon, quand on vous dit ça, c'est toujours un peu difficile à recevoir, mais peut-être que le fait qu'on soit à deux, on arrive à le recevoir. Je ne dirais pas qu'on le prend avec le sourire et qu'on dit haha, mais on arrive à le prendre comme un boxeur, vous voyez, boum boum, quand on frappe, il faut pouvoir encaisser, sinon il faut pas aller boxer. Et quand on est rentré en Belgique, on s'est dit, on va téléphoner à Marie-Hélène, la monteuse, et on va aller dans la salle de montage pour enlever ce plan de 58 secondes qu'il faut enlever. On y est allé, et elle nous a dit, écoutez, avant que vous n'arriviez, j'ai revu le film, et il me semble qu'on peut encore couper à 2 ou 3 endroits. Je me souviens plus si c'est 2 ou 3, mais il me semble que là aussi. Et alors, nous nous sommes dit, ensemble, chacun se doutant que si on retournait dans la salle de montage, on n'allait pas seulement faire une coupe ou deux, on s'est dit, on va remettre le film depuis le début, et on va y aller, et on va voir. Et on a commencé à 10h du matin, et à 18h30, on est sorti avec un film qui faisait 7 minutes en moins.
Et c'était pas 58 secondes, là.
Et nous, 7 minutes 34.
7 minutes 34, et on s'est dit, voilà. Et là, il nous semble que le rythme du film, il nous semble que nous l'avons trouvé. Puis la suite de l'histoire, c'est Luc.
Bon, voilà, on s'est dit que peut-être pour la première fois, on n'avait pas attendu après le tournage assez de temps pour monter et qu'on est resté un prisonnier de ces plans qu'on avait fait, qu'on trouvait bien. Bon, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, il a fallu que, c'est assez particulier, mais il a fallu passer par Cannes pour avoir un peu un choc qui nous fasse réagir et qu'on se dise, mais finalement, le rythme de ce film, l'a-t-on trouvé ou pas? Et là, on ne l'avait pas trouvé.
Mais la réception justement de vos films, alors là ça a été un peu violent, à Cannes vous n'étiez pas habitué, parce que d'habitude on dit le Festival de Cannes c'est 20 films en compétition et à la fin les Dardenne ont un prix, alors là il y en a pas eu, mais ces retours, que ce soit d'amis ou de la critique ou du public, sont des choses auxquelles vous êtes très attentif?
Tout à fait, oui. Parfois difficile, comme l'a dit Jean-Pierre, mais bien sûr, moi je suis très attentif. En tous les cas, ça dépend ce qu'est la critique, mais dans la mesure où elle est au niveau du rythme, on se dit oui, il y a peut-être quelque chose, d'autant plus que nous, on sentait quelque chose quand même qui n'était pas clair. Donc là, on est attentif, bien sûr, et on écoute, et on se dit oui. Même si personne n'a dit à ce moment-là et à ce moment-là, mais quand même, de dire, tiens, il y a des moments où je ne sais plus, je suis trop dans la chronologie du travail du médecin. Et l'enquête du médecin, l'aspect plus dramatique du film, ben, par moments, il se dissout dans la chronologie. Et ça a été notre problème pour le tournage et pour le montage. C'était ne pas transformer ce médecin en policier, ne pas en faire simplement une enquêtrice. Non, elle soigne les gens. Et d'ailleurs, ses découvertes sont liées aux soins qu'elle donne. Et il fallait qu'elle soigne. Il fallait qu'elle ait cette douceur, ce rapport au corps des gens. Il fallait que les corps des gens parlent. Et que c'est ça qui fasse qu'elle se dise, tiens, celui-là, il sait quelque chose. Donc, il fallait garder cela. Et en même temps, il fallait faire attention de ne pas laisser des moments trop longs entre ces découvertes. C'est-à-dire, il fallait que l'enquête avance. C'est aussi simple que ça. Et un film, il n'y a rien à faire. En tous les cas, le genre de cinéma que nous faisons, le cinéma narratif, et il faut que ça avance. Et donc, voilà, ça avançait de manière maladroite.
Alors, on a retracé assez rapidement, là, en une heure, toutes les étapes qui aboutissent à la fabrication d'un film. Quelle est celle que vous préférez et quelle est la plus difficile entre tous ces moments, Jean-Pierre Dardenne? Ouais.
Celle que je préfère, ce sont les répétitions. Parce qu'on est là, dans les décors, avec les comédiens, on essaie les costumes, tout est encore possible. La seule pression qui existe, c'est celle que nous nous donnons, et elle est là. Dire l'inverse serait mentir. C'est la première naissance du film, vraiment. Et quand vous voyez que il y a un doigt ou un petit bras ou une petite tête qui commence à apparaître, vous vous dites, voilà. Puis on verra le reste. Mais moi, c'est le moment que je préfère, voilà.
Luc Dardenne,
ce que je préfère, c'est quand on a trouvé un plan et je me dis, tiens, c'est bien. Au tournage, aux répétitions, ou même au montage. Je veux dire, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Quand on a mis la musique dans Le Gamin au vélo, ça n'allait pas, ça allait, puis à un moment donné, ah! Ça, c'était la grâce était là. Donc voilà, moi c'est ces moments-là que je préfère, mais ils sont à différents niveaux de fabrication du film. Et puis des moments finalement quand même, j'aime ça aussi quand tout le monde a participé au plan. Ingénieur du son, caméraman, directeur photo, participer, je veux dire activement, parce qu'évidemment ils participent à tous les plans. Mais je veux dire que il s'est passé, il y a des plans comme ça, et ça arrive, il y en a souvent un par film au moins, où il y a une espèce de concentration générale où les gens apportent, mais c'est petit, mais des détails dans la lumière, dans le son, dans les mouvements de caméra, et on se dit, tiens, ça, là, tout d'un coup, ça s'est passé.
Et
un beau moment, si on a encore, si
Jean-Pierre Dardenne,
si on a encore un moment, si on a encore un moment,
allez-y.
Pour finir avec ce gamin en vélo. Donc, Cécile de France vient sur, dans nos répétitions sur, et elle venait de terminer le film de Clint Eastwood. Et en parlant, justement, pendant nos répétitions, on allait, Luc, Cécile et le petit Thomas et moi, nous allons manger toujours au même endroit, tout près de, des endroits où on répétait. Et Cécile dit au cours d'un repas, avec Clint, c'est formidable, la plupart du temps, une prise, c'était bon. Et le gamin, le Thomas, une prise, hein. Et vous, qui nous dit? Comment vous faites? Bah, dites-nous, c'est un peu plus qu'une prise, hein, on va voir. Et on s'est aperçu que ce gamin, au début, son obsession, c'était, si on pouvait faire comme Clint Eastwood, une prise. Une prise. Et on l'a fait une fois. C'est, lorsqu'il est poursuivi par le fils du libraire, qui le pousse par terre. Et puis, il y a cette petite, ce petit moment de bagarre que lui refuse. Et puis après, il se lève, il s'en va. Donc, il y a cette chute, qui est quand même un petit moment de cascade important, puisqu'on filme dans la continuité. On fait une prise, et puis on dit, c'est bon, on passe au plan suivant. Il nous a regardé, il dit, c'est pas vrai, on est ici, c'est vrai. Finalement, on arrive au bout, il dit, ouais, il y a juste un truc dommage. C'est que Cécile, elle n'est pas là aujourd'hui. Il faut lui qu'on lui téléphone pour dire qu'on a fait aussi un plan, une prise.
Le moment Clint Eastwood des frères.
Il était comme un acteur de Clint Eastwood parce que ce qu'il y a, c'est qu'il pensait que c'était de sa faute qu'on recommençait. Ouais, oui, il disait, mais ça va, j'ai pas été bon. Mais si, t'es bon, mais c'est pas ça, on cherche. Ah bon, bon. Tandis là, il s'est dit, bon, là, c'est sûr, j'étais bon.
Merci beaucoup, Jean-Pierre et Luc Dardenne. Et puis, merci au public du Festival d'Angers d'être venus aussi merci. Nombreux. Merci.
Merci.
C'était la masterclass des Frères Dardenne avec Antoine Guillot. Attaché de production, Mathieu Maroudin. Coordination, Arnaud Laporte. Réalisation, Vanessa Nadjar.